Bonjour à toutes et à tous, je suis Célestin et je suis aujourd'hui en compagnie de Julien Bachelier, maître de conférence en histoire médiévale au pôle universitaire Pierre-Jacques Elias de Quimper. Donc durant quelques jours, la fac retourne au temps du Moyen-Âge et plus précisément au début du dernier millénaire pour aborder la figure de la moniale allemande Hildegarde de Bingen et autour de différentes thématiques sur sa personne. Monsieur Bachelier, vous avez donc animé ce mercredi soir une conférence intitulée Hildegarde de Bingen, femme de son temps ou figure révolutionnaire. Et ce week-end, donc 22 et 23 novembre, aura lieu en l'église de Locmaria, dans le centre de Quimper, une exploration archéo-acoustique menée par des chercheurs, des chanteurs et des musiciens, et en particulier par l'ensemble Organum, dirigé par le musicologue et spécialiste du Moyen-Âge Marcel Pérez. Donc le tout se fera sous forme d'atelier, on en parlera tout à l'heure. Et puis dans le même temps du week-end, donc des étudiants et des étudiantes de l'UBO pourront participer à un concours artistique organisé par l'association Culture Connexion, qui consiste à créer une œuvre originale inspirée du patrimoine de l'Église et des ateliers de chants et d'instruments qui y auront lieu. Bon, voilà pour la longue présentation, mais c'est important puisque donc, vous organisez tout ce week-end avec l'UBO. Tout ceci, je précise, est soutenu par la Maison des sciences humaines et sociales en Bretagne. C'est important de le préciser. Donc, qu'est-ce qui vous est venu en tête? Qu'est-ce qui fait que l'UBO organise tout un week-end et plein d'activités consacrées à la figure de Hildegarde de Bingen?
Alors, Hildegarde n'est jamais venue à Quimper. Par contre, l'église de Locmaria est une église du XIe-XIIe siècle, l'une des rares en élévation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'était une abbaye de femmes. Donc, ça correspond aussi à la vocation d'Hildegarde. Et troisième particularité, c'est que c'était une abbaye double avec des hommes et des femmes. Or, Hildegarde de Bingen a commencé sa carrière religieuse dans un monastère double d'hommes et de femmes. Donc potentiellement, on se rapproche au plus près d'un lieu dans lequel les chants d'Hildegarde de Bingen pouvaient effectivement résonner. Alors tout n'est pas parfait, puisque l'église de Locmaria a connu des travaux au XIXe. Les communautés religieuses où Hildegarde a été étaient plus nombreuses que celles de Locmaria. Mais en attendant, on essaie de se rapprocher au plus près de la réalité historique.
Alors justement, dites-nous qui est cette figure de Hildegarde de Bingen. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse ce personnage, qui porte encore aujourd'hui un fort héritage.
Alors effectivement, elle est très connue. Elle est ressortie un peu des limbes de l'histoire à la fin du XXe siècle, dans les années 1990. Alors principalement, parce que déjà c'est une figure féminine et il y a tout le mouvement de l'histoire des femmes du genre qui émerge alors. Il y a également tout son travail qui a été fait autour de la santé et de la médecine douce qui est ressorti, puis ses visions qui vont jouer un rôle important. Alors au plan historique, elle est née vers 1098, elle meurt en 1179. Elle a une carrière religieuse, alors si on peut parler de carrière, elle est d'abord recluse, c'est-à-dire elle vit isolée avec une autre sœur dans un petit bâtiment devant un monastère. Ensuite, elle est moniale, c'est-à-dire sœur religieuse. Elle devient abbesse, elle va fonder deux monastères juste à côté de ses domaines familiaux. Elle va vivre quasiment 80 ans comme une moniale, une religieuse bénédictine, et elle va se spécialiser en particulier dans les chants.
Mais c'est vraiment ce thème des chants et de la musique qui vous intéresse ce week-end?
Ah oui, le fait qu'il y ait Marcel Pérez et l'ensemble Organum qui se déplace, c'est principalement, alors pas uniquement, mais principalement lié à cette question des chants, le rôle de la musique, puisqu'en fait Hildegarde avait une conception qu'elle a à la fois très complexe et cohérente. Pour elle, la musique, c'est ce qui permettait de rétablir une harmonie avec le divin. Donc c'est vraiment dans un but spirituel qu'elle pense tout ça, et cette harmonie marche aussi sur Terre. C'est-à-dire que si quelqu'un est malade, il y a des plantes, il y a de la cuisine, c'est pour ça qu'on retrouve des livres d'Hildegarde de Bingen sur la cuisine ou sur les plantes. C'est des questions qui l'intéressait pour rétablir une harmonie intérieure qui est en gros un héritage de l'harmonie extérieure et céleste. Et donc il y a cet ensemble-là qui est centré sur la musique parce que c'est au cœur de ses préoccupations et aussi parce qu'elle a mis en place vraisemblablement des nouvelles manières de chanter. Et donc ce serait ici de s'approcher au plus près de ce qu'elle a pu mettre en place avec une interrogation spécifique ici à Locmaria, c'est que vraisemblablement quand des chœurs de femmes chante dans une église pour femmes, ça ne résonne absolument pas de la même manière que si ce sont des hommes. Donc, parmi les hypothèses de travail, alors il y en a plusieurs, mais est-ce qu'on a construit des églises pour femmes, non pas sur des conceptions géométriques ou purement architecturales, mais en pensant à l'écho de leur voix, qui était différente de celle des hommes?
Et donc, parlez-nous donc de ce week-end où tous ces ateliers vont se mettre en place avec... Donc il y aura le musicologue Marcel Pérez et son ensemble Organum, mais il y aura aussi d'autres musiciens, des chercheurs. Quel est le but du week-end et comment ça va se présenter?
Alors il y a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de restituer des chants d'Hildegarde de Bingen dans un environnement proche de celui qui pouvait être le sien. Ensuite, il y a également un élément de comparaison avec un certain nombre de chants, de manières de chanter qui se rapprochent du type de chant que faisait Hildegard de Bingen. Donc il y aura des comparaisons qui seront faites avec les chansons bretonnes qu'on appelle les Guerziou. Il y a également des parallèles avec les chants de l'Antiquité grecque ou éventuellement des comparaisons faites également avec des chants turcs. Également, et c'est un troisième volet, il y a de la musique instrumentale, notamment harpe, qui vont permettre de voir comment est-ce que tout ça pouvait fonctionner en écho, puisque nous, on va aller dans une église, où aujourd'hui c'est une église de 2025, avec des chaises et du mobilier d'un héritage historique, et donc il faudrait essayer de se rapprocher au plus près de la réalité de l'époque d'Hildegard, c'est-à-dire un espace qui n'était pas ouvert comme ça de la même manière, avec éventuellement des tentures, des tapisseries qui permettaient d'absorber les sons. Donc il faudra avoir un petit peu toutes ces données en tête pour ensuite traiter de manière scientifique et universitaire les données qu'on aura recueillies.
Et à terme, ces données, ces recherches, à quoi elles peuvent servir ? Est-ce que ça permet de comprendre un peu mieux l'époque dans laquelle elle a vécu ? Est-ce que ça permet de mieux comprendre la musique et comment elle y a transformé et comment elle a participé à la dynamique des musiques européennes à ce moment-là ?
Alors, je pense que ce qui pourra en ressortir, il y a plein de chants totalement différents. Je vous parlais tout à l'heure au plan historique sur la manière de construire, par exemple, une église. Si on construit une église de femmes et une église d'hommes de manière différente, c'est peut-être pas parce que les hommes seraient plus importants qu'on construit une église plus importante ou plus grande. C'est peut-être lié à ce qu'on appelle le cœur des anges, c'est-à-dire les religieuses qui chantent. Donc il y a peut-être ça qu'il va falloir développer. Il y a également des travaux qui sont faits sur l'importance du chant pour se sentir bien. Hildegard était quelqu'un qui avait qui était parfois à fleur de peau, parce qu'elle avait un lien affectif très fort avec un certain nombre des religieuses qu'elle devait former. Elle rentre quasiment dans des fois des situations un peu de dépression. Elle pleure beaucoup, elle n'est pas bien, parce que certaines religieuses changent de monastère. Et donc, c'est essayer de comprendre comment est-ce que le chant peut également être un élément positif pour se sentir bien. Et donc, il y a le chant pour se sentir bien en tant que personne et individu, aussi dès l'époque médiévale, parce qu'elle a passé quand même quasiment 80 années de sa vie à chanter, psalmodier, la liturgie, donc c'était fondamental dans sa vie. Et également des travaux qui vont être mis en parallèle pour savoir si il y a des éléments qui sont liés au chant et à la nature, c'est-à-dire au vivant, notamment les plantes, principalement pour guérir. Et dans l'idée de guérison, l'idée du chant est fondamentale. Donc comment est-ce que les plantes, la voix, la chanson, même le déplacement dans les lieux de culte, peuvent contribuer à un certain bien-être, entre guillemets, et est-ce que Hildegard avait conscience de ça, et est-ce que dans ses compositions, ça faisait partie de ses attendus.
Vous qui donc avez présenté une conférence hier sur Hildegard, est-ce que c'est essentiel et c'est vraiment exceptionnel d'avoir l'idée qu'on puisse aller dans une église et se remettre dans des conditions de l'époque pour retravailler son héritage ? Est-ce que c'est vraiment... On ne peut retravailler justement cet héritage que dans des conditions qui sont les plus proches possibles à l'heure actuelle.
Alors, il y a plusieurs manières de vous répondre. C'est-à-dire qu'on peut tout faire en laboratoire. On reconstitue les voûtes du 11e, 12e siècle des abbayes d'Hildegard et on fait chanter des gens. Et puis, en fait, on peut faire des mesures acoustiques dans des studios d'enregistrement. Mais l'inconvénient, c'est qu'il nous manquera la matérialité des lieux. C'est-à-dire que lorsqu'on a une mondiale du XIIe siècle en Allemagne que l'on chante en plein hiver, il fait un peu froid, c'est un peu humide, et mine de rien, il y a des caractéristiques qu'on va retrouver ici. Donc il faut les deux. Il faut le côté studio pour avoir quelque chose qui soit a priori fiable au plan scientifique et reproductible, mais il faut aller in situ, c'est-à-dire véritablement dans les lieux de culte, pour chanter ceux qui sont encore en élévation et où on peut chanter, pour avoir cette partie, ces dimensions en fait qui est réelle et qui est enfin réaliste, et que là, un laboratoire ne pourra jamais véritablement faire correspondre ou traiter.
Et j'imagine que pour vous, en tant qu'historien, ça doit être quelque part fabuleux d'avoir cette occasion-là.
Alors, le fait qu'il y ait comme ça des chants qui soient restitués sur place avec des professionnels qui maîtrisent parfaitement, parce que les chants de l'Hildegard ne sont pas simples à maîtriser, bah oui, ça correspond effectivement à une expérience absolument unique. Marcel Pérez a l'habitude de chanter dans différentes abbayes, et là, il vient à Locmaria, c'est vrai que ça va être une expérience relativement exceptionnelle.
Et donc là, ce week-end, chacun peut venir, c'est libre, pour participer à des activités qui auront lieu tout le week-end, c'est bien ça, hein ?
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les portes de l'église ouvriront à 9h, et tant samedi que dimanche, et donc c'est entrée libre, c'est-à-dire que les gens pourront venir, écouter, et puis en fonction des différents ateliers, des chants dont je vous ai parlé tout à l'heure, soit d'Hildegard ou les autres en correspondance, une partie publique pourra ou non participer à certains ateliers, en fonction de l'avancée des travaux des différentes troupes et de Marcel Pérez.
Parlons du concours qui est organisé par l'association Culture Connexion. Donc, si j'ai bien compris, l'idée, c'est de s'inspirer à la fois du lieu, donc de Locmaria, mais aussi de l'héritage de Hildegarde, pour créer quelque chose qui les inspire. Et c'est dans toutes les formes de l'art possible, donc on va dire la sculpture, la peinture, le dessin, etc. Précisez-nous un peu l'idée du concours qui est organisé par les étudiants et les étudiantes.
Alors, finalement, vous avez tout dit. C'était très clair. C'est vraiment ça, c'est s'inspirer de ce qu'on appelle aujourd'hui de l'expérience, c'est-à-dire venir sur place, s'imprégner de l'ambiance, des chants, et de susciter quelque chose où les étudiants, des fois, parce qu'ils sont étudiants, donc ils sont formés sur certaines choses, mais là, c'est laisser libre cours à leur imagination. C'est-à-dire s'inspirer des lieux, s'inspirer de l'ambiance, s'inspirer de la musique, de certaines rencontres, et donc de créer. Alors créer principalement des supports physiques, hein, parce qu'il y a un concours qui est organisé pour voir leur production ultérieurement, mais donc ça peut être des dessins, ça peut être de la peinture, ça peut prendre différents formats, photographie, c'est vraiment ce qui les inspire à un instant T pendant ces deux jours de répétition, de chant autour d'Hildegarde.
Très bien, donc on invite tous les étudiants et étudiantes de l'UBO à se rendre ce week-end à Locmaria pour s'inspirer du lieu et de ce qui s'y passera. Donc, je précise, 22 et 23 novembre, à l'église de Locmaria, donc des ateliers animés par des chercheurs, des chanteurs, des musiciens, et notamment par Marcel Pérez et son ensemble Organum, pour découvrir un peu mieux et se mettre dans les conditions de la vie de Hildegarde de Bingen. Merci beaucoup, Julien Bachelet, d'avoir répondu à mes questions, et puis bon courage pour l'organisation de tout cet événement.
Je vous remercie, bonne journée.